Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous vivons. T'aimer, t'adorer, car tu es un Dieu d'amour et tu veux que nous ayons cette relation d'amour avec toi. Merci pour ta présence. Merci Seigneur de nous bénir maintenant encore à la méditation de ta parole, Seigneur, afin que cette parole pénètre dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour le bien que tu nous as déjà fait. Et merci pour le bien que tu vas encore nous faire, Seigneur. Oh, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs. Donne-nous d'être souples à l'écoute de ta voix, afin que tu puisses nous bénir, Seigneur. Que ta semence, la parole, tombe dans un terrain bien préparé, et non dans les épines ou les ronces, ou le long du chemin, ou dans un terrain plein de roches. Seigneur, fais qu'il tombe dans un terrain bien préparé, qui reçoit, qui accepte, qui obéit et qui persévère dans tes voies. Nous comptons sur toi encore maintenant et sur l'assistance du Saint-Esprit, afin que cette méditation nous soit utile, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Il est bon d'être dans la sainte présence de Dieu. Combien sa présence est ce qu'il nous faut le plus, n'est-ce pas vrai? Cette présence qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, lorsque nos cœurs sont ouverts. Nous voyons par là combien le Seigneur veut s'approcher de nous. Combien il veut nous serrer dans ses bras et combien il veut nous parler, nous enseigner, car il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Nous lui appartenons, nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. C'est au berger de nos âmes, au berger céleste que nous appartenons, lui qui n'a jamais déçu personne, et qui ne décevra jamais personne. Que notre amour, notre confiance soit en lui et en lui seul. Que son nom soit béni éternellement. Amen. Comme nous vivons ces instants de Pâques, et comme nous l'avons déjà chanté, nous allons nous attarder encore maintenant sur le message de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Et nous allons voir maintenant brièvement l'œuvre parfaite de Jésus sur la croix. Il accomplit une œuvre parfaite. Qui n'est plus à refaire et qui ne sera plus jamais à refaire, tellement son œuvre a été parfaite à la croix, tellement sa mort et ses souffrances. La Bible dit qu'il a souffert une seule fois. Il l'a fait parfaitement et définitivement. Sa mort a satisfait la justice et la sainteté divine. C'est pourquoi, si nous croyons en sa mort, le pardon des péchés désormais nous est acquis. Et pour cela, nous allons méditer ensemble pour essayer de voir un peu plus en profondeur cette réalité. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, nous allons voir d'après l'ordre des choses, Vous savez que Jésus a prononcé sept paroles sur la croix, n'est-ce pas vrai? Alors on pourrait apporter sept messages sur ces sept paroles. Mais nous allons méditer l'avant-dernière parole de Jésus sur la croix, celle que vous connaissez bien, qui est « Tout est accompli ». Alors Jean 19, on va partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, « Afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Il y a tant de choses à dire sur l'amour de la croix, les souffrances de la croix. Il nous faudra l'éternité pour en découvrir la pleine signification. Donc nous n'allons essayer de voir ici qu'une faible partie, mais une partie importante. Que nous devons tous bien saisir l'œuvre parfaite de la croix. Car, malheureusement, vu les croyances dans notre pays et dans le monde entier, nous voyons par là que même ceux qui se disent chrétiens n'ont pas compris le message de la croix. De par leurs traditions et de par leurs enseignements, ils disent des choses qui contredisent ce que Jésus a accompli à la croix. Et c'est par là que nous voyons qu'il y a un ennemi là derrière, le diable, qui ne veut pas que l'homme saisisse la pleine signification de la croix. Parce que c'est à la croix que ton salut, mon salut, a été accompli. Amen. C'est là, et c'est là seul. Si nous ne comprenons pas la croix, nous ne comprendrons pas la Bible en général. La croix est comme la clé qui nous ouvre la connaissance de la parole de Dieu. Car tout a été écrit dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous pointe vers la venue de Jésus. Et la venue de Jésus n'a qu'un but, sa mort sur la croix. Tout le Nouveau Testament a été écrit, pourquoi ? Pour nous tourner cette fois vers Jésus. Et encore une fois, pour mettre le flash et les rayons sur sa mort, sur ses souffrances, sur ce qu'il a accompli sur cette croix. Car tout a été fait en vue de cela. Il est donc important que nous saisissions le sens de ce que Jésus a surtout dit ici, tout est accompli. Tout est accompli. Et pour en bien comprendre le sens, Jésus a prononcé ici un mot. Dans le grec, ce mot est un seul mot qui veut dire tétélestai. Je ne prononce peut-être pas bien le grec. S'il y a des experts en grec, là, je n'ai pas fait du grec. Alors que ça ne vous écorche pas trop les oreilles, s'il vous plaît. Mais ce qui est important maintenant, c'est d'en comprendre le sens. Et quand Jésus a prononcé ce mot, tétélestai, c'était un mot qui était très connu du temps de Jésus et des apôtres. Pour nous, si je vous dis tétélestai, qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour nous, on n'en comprend pas le sens, c'est un langage étranger. Mais quand Jésus a prononcé cette parole, ce n'était pas du tout un langage étranger. Chacun pouvait comprendre, car c'était un terme très familier. Tétélestai, c'était un terme très familier. Il était utilisé, par exemple, j'ai noté ici, par les serviteurs qui travaillaient pour un maître. Lorsqu'un maître demandait un travail à un serviteur, le serviteur, après avoir accompli le travail qu'on lui a demandé, se présentait devant son maître. Et vous savez ce qu'il lui disait ? Tétélestai. Un mot. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Maître, j'ai accompli tout le travail que vous m'avez demandé à faire. Tétélestai. C'est fait. Vous m'aviez demandé un travail? Eh bien, tétélestai, c'est fait. Et quand Jésus a prononcé cette parole, c'est comme s'il disait, c'est fait. Et le mot tétélestai veut dire, c'est terminé, ce sera terminé, et ce sera définitivement terminé. Autrement dit, ce qu'il accomplit à la croix est une œuvre qui a été achevée une fois pour toutes. Et à combien de fois dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus a souffert une seule fois. Par son sacrifice, il nous a sanctifiés une seule fois. Ce qui fait que ce sacrifice était un sacrifice offert une fois pour toutes. Et Jésus a été, lui, le parfait serviteur de son Père, n'est-ce pas vrai? N'a-t-il pas dit à combien de reprises, ma volonté est de faire l'œuvre que le Père m'a donné d'accomplir? Et dans Jean 17, 4, vous savez, quand il priait à son Père, la prière sacerdotale, à un moment donné, dans le chapitre 17, verset 4, il dit à son Père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Tétélestai, tout est accompli. Jésus a été ce parfait serviteur qui a pleinement accompli l'œuvre. Et quelle était cette œuvre ? C'était l'œuvre pour le pardon de nos péchés. C'était sa venue principale. Lui-même l'a dit bien souvent, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, dans le mot tétélestai, il y a cette pensée de Jésus, finalement, du ministère de Jésus, ce qu'il a accompli à la croix pour le pardon de nos péchés, il l'a fait une fois pour toutes. C'était donc une œuvre parfaite. C'était un coup de maître dès le départ. Il n'y a plus besoin de retoucher quoi que ce soit. C'était parfait. Alléluia. D'ailleurs, on pourrait traduire « tout est accompli » par cette pensée. Tout est parfaitement parfait. Alléluia. ce qu'il a accompli pour notre rachat a été parfaitement accepté par le Père. Et puisque le Père a accepté ce que son Fils a accompli pour le pardon de nos péchés, si le Père accepte cela, son sacrifice, à combien plus forte raison nous pouvons l'accepter. Amen. Vous ne pouvez pas accepter ce que le Père refuse. Si le Père dit, non, pas d'accord avec ça. Vous êtes d'accord, certains sont peut-être d'accord, mais moi pas. Ce que vous faites ne me satisfait pas. Et rien n'a pu satisfaire la sainteté et la justice du Père que le sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce mot, je vous l'ai dit, était utilisé non seulement par les serviteurs, mais aussi par les marchands. En ce temps-là, quand quelqu'un allait acheter quelque chose et que vous alliez acheter une marchandise, vous payez une certaine somme et en retour, le marchand vous donne comme une facture. Et sur cette facture, il y avait un cachet. Et vous savez quel était ce cachet ? Tétélestai. Ça voulait dire, c'est payé. La dette est payée. Et quand Jésus s'est écrié sur la croix, Tétélestai, non seulement ça voulait dire, Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as demandé à faire, mais la dette est payée. Je paye entièrement la dette des hommes que vous et moi, pécheurs devant Dieu, nous avons chacun d'entre nous une dette à cause de nos péchés, à cause de notre état de pécheur. Nous sommes des débiteurs devant Dieu. Nous avons une dette immense que nous ne pourrons jamais payer, que tu ne peux pas payer et que tu ne pourras jamais payer devant Dieu. C'est pourquoi un homme pécheur ne peut se racheter lui-même. Ni une personne pécheresse ne peut vous dire, « Mon ami, tes péchés sont pardonnés. » Aucune église ne peut vous dire, « Vos péchés sont pardonnés. » C'est un blasphème. Il n'y en a qu'un qui a le droit de pardonner vos péchés. Celui qui a souffert l'agonie. Celui qui a pris votre culpabilité au prix de grandes souffrances. Au prix de tourments, au prix d'une douleur que nous ne pouvons comprendre. Lui seul peut maintenant pardonner tes péchés, mais aucun homme, aucune église ne peut le faire, aucune femme non plus. Quand Jésus s'est écrié « Tétélestai », c'est comme s'il disait « Votre dette maintenant est entièrement payée. Par mon sacrifice, la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Jamais tu ne pourras payer ta dette. Combien de personnes se font des illusions? Ils pensent que par leur religion, par leurs bonnes œuvres, par leur bonne moralité, par leur souffrance, par leur gentillesse, ils pensent que Dieu verra tout cela et qu'ils seront pardonnés. Mais mon ami, tu ne réalises pas pourquoi Jésus est mort. Ce n'était pas pour ses péchés. Ce sont tes péchés, mes péchés, qui l'ont crucifié. La croix nous révèle la méchanceté du cœur de l'homme et sa culpabilité. Et sa culpabilité. L'homme est coupable. Et il ne peut se libérer lui-même de cette prison dans laquelle il se trouve. Jésus seul, le saint et le juste, pouvait par son sacrifice parfait accomplir cette libération et s'écrier « Tétélestai ». La dette est totalement et définitivement payée. Ta dette devant Dieu. Si tu crois en moi,
si tu te repens de tes péchés, si tu réalises que tu es perdu, car Jésus sauve les perdus. Ça n'a aucun sens de dire « Jésus m'a sauvé » si je ne réalise pas que je suis perdu et que je mérite la condamnation divine. Quelqu'un peut dire qu'il est sauvé seulement lorsqu'il a réalisé qu'il était perdu. Et nous devons regarder la croix sous cet angle-là. Regardez la croix comme le sauveur qui meurt pour nous perdus et portant notre culpabilité, notre condamnation, nos souillures, nos désobéissances et nos rébellions qui méritaient le châtiment de Dieu, car Dieu est saint et juste. Il ne peut passer sur le péché comme cela en disant « Oh, c'est rien du tout, c'est pas grave, c'est pas grave. » Comme certaines personnes pensent aujourd'hui « Oh, mais avec... » Oui, j'ai fait le mal, mais avec le bien que j'ai fait, ça contrebalance un petit peu. Ils sont toujours en train de faire la balance, en train de se balancer une fois à gauche, à droite. Oh, mais j'espère qu'avec le bien que j'ai fait, ça va compenser. Non, mes amis, le plus petit péché dans ta vie te sépare de Dieu, car Dieu est saint. Et si Dieu pardonnait le péché sans le juger, il ne serait pas Dieu, il ne serait pas juste, il ne serait pas saint. Un Dieu comme cela ne peut diriger le monde et juger le monde un jour. Là où il y a le péché, la sainteté de Dieu exige le jugement et la condamnation. Mais son amour veut sauver le pécheur. Il fallait qu'il y ait un substitut, quelqu'un qui meurt à notre place. Mais ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Il n'y en a qu'un. C'est lui, le saint et le juste. Christ a souffert une fois pour nos péchés. Lui, le juste pour nous, injuste, afin de nous amener à Dieu. Le sacrifice seul de Jésus nous amène à Dieu. Les sacrifices que vous pouvez faire dans votre église ne vous amènent pas à Dieu, vous amènent à votre église. Vous font entrer dans votre église, vous amènent à votre église, mais pas à Dieu. Seul le sacrifice de Jésus nous amène à Dieu. Alléluia. Et un troisième sens, il y en a plusieurs, mais je vais vous donner le troisième sens. Quand cette parole était prononcée, c'était les sacrificateurs, en ce temps-là, qui prononçaient cette parole. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas en grec. Mais le mot qu'il prononçait correspond exactement à la signification et à la définition de Telestai. Quand un homme, une femme avait péché, dans l'Ancien Testament, vous le savez, il devait se présenter devant le sacrificateur. Et il devait présenter quoi? Un animal avec des défauts? Vous êtes sûr que s'il arrivait avec un animal avec des défauts, il avait intérêt à courir bien vite? De courir bien vite. Qu'est-ce qu'il faisait, le sacrificateur? Je ne sais pas s'il avait une loupe. En tout cas, il avait des bons yeux. Il fallait que cet animal soit sans défaut. Sans défaut. Et quand il voyait que l'animal, pour le sacrifice, en vue du pardon des péchés de cet homme ou de cette femme, était sans défaut, il disait, c'est parfait. Cet animal est parfait. On peut l'offrir pour le sacrifice de tes péchés. Autrement dit, le troisième sens, quand Jésus a dit « Tetelestai », ça veut dire que son sacrifice qui a été offert est le seul sacrifice parfait, sans tâche, devant Dieu, et que Dieu a accepté. Amen. Et en cela, nous vivons un siècle, une génération, où on ne croit pas que Jésus soit différent des autres, soit sans tâche, sans péché, sans souillure. Combien de personnes aiment Jésus au même niveau que les autres, n'est-ce pas vrai? Jésus n'est qu'un prophète parmi les autres, ou n'est qu'un fameux spirit parmi les autres. Je ne sais pas, enfin, on raconte tout un tas de choses. Mais on ne voit pas en Jésus cet être sans défaut et sans tâche. Celui qui n'a jamais péché. L'être parfait. Amen. Et tant qu'on ne voit pas en Jésus cet être, cet innocent qui est mort pour des coupables, ce juste qui est mort pour des injustes, cet être parfait qui est mort pour nous imparfaits, alors Jésus ne sera rien pour nous. Il ne pourra pas faire ce qu'il est appelé à faire dans l'autre vie. Mes amis, dans la Bible, si autour de vous vous entendez des gens qui discutent sur Jésus, « Oh oui, d'accord, mais il n'a rien d'exceptionnel, on le met au même niveau que les autres », c'est la plus grande erreur qui puisse exister. Le Père lui-même parlait de Jésus d'une manière qui enlève tout doute sur sa pureté, sur le fait qu'il était sans péché. N'a-t-il pas dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Le Père était là pour dire que son Fils était unique. Nul n'était semblable à lui. Le péché n'était pas en lui. Sinon, comment pouvait-il mourir pour des pécheurs? Non seulement le Père, mais les anges aussi, vous vous souvenez? Les anges ont affirmé à Marie, « C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » dans Luc 1, 35. Les anges ont affirmé sa sainteté. Le Saint-Enfant, alléluia! Les anges, non seulement les anges, mais le Saint-Esprit aussi atteste par la bouche de Pierre. Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux plutôt, il est dit, il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, parfait pour l'éternité. Hébreux 7, 26, 28. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre pour nous révéler la grandeur, la personne incomparable, pure et sans tache de Jésus. Amen. Il fallait qu'il soit sans défaut et sans tache, sinon il ne pouvait pas mourir pour nous. Il fallait qu'il soit juste pour mourir pour les injustes, innocent pour mourir pour les coupables, et pur pour mourir pour les impurs. Amen. Le Père affirme sa sainteté, les anges l'affirment, le Saint-Esprit l'affirme. Savez-vous que même les démons affirmaient que Jésus était saint et qu'il était le Fils de Dieu? Les démons étaient obligés de l'admettre. Dans Matthieu 8, 28, 29, il est dit, avec les deux possédés de Gadara, vous vous souvenez? Quand Jésus s'est présenté, les deux possédés se sont levés et se sont dressés contre lui et lui ont dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ?» Comment? Les démons reconnaissent sa divinité. Et s'il est Dieu, il est sans péché, sans défaut, parfait pour l'éternité. Amen. Même les démons sont obligés d'admettre qu'il est saint, séparé des pécheurs, au-dessus de tous les cieux, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Même ses disciples, les apôtres, avez-vous remarqué un endroit où les apôtres ont dit au sujet de Jésus, oh là, il a dit un mensonge. Est-ce que vous avez vu ça? À aucun endroit nous voyons les disciples ou les apôtres dire que Jésus a dit un mensonge ou il a fait une mauvaise action. Vous avez ça dans votre Bible? À aucun endroit. Pierre lui-même, rempli du Saint-Esprit, il dit dans l'Acte des apôtres, au chapitre 3, il dit, vous avez renié le saint et le juste. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Parce que Jésus, en mourant sur la croix, il était le sacrifice parfait. Il fallait que le sacrifice soit sans défaut et sans tache pour qu'il soit accepté par Dieu. Amen. Sinon, ce n'était pas possible qu'on soit pardonné.
Même Pilate a dû avouer quand il a dit « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Même Pilate.
Et Corneille aussi, le centenier qui se trouvait au pied de la croix, quand il a vu les ténèbres, quand il a vu la terre trembler, les rochers se fendre, quand il a vu ces ténèbres pendant 3 heures, il était effrayé, là, nous dit la Bible, et il s'est écrié « Certainement, cet homme était fils de Dieu !» Alléluia ! Même le centenier, romain, sanguinaire, était obligé de confesser sa sainteté, sa pureté et sa divinité.
Et Jésus a été cet agneau parfait, n'est-ce pas vrai? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été cet agneau sans défaut et sans tache, prédestiné dès avant la fondation du monde. Dans son amour, Dieu avait préparé son Fils bien-aimé, celui qui seul pouvait pardonner nos péchés en mourant sur la croix, cette croix de souffrance, cette mort de souffrance, cette mort ignominieuse. Écoutez, maintenant je vais terminer et dire quelques pensées très importantes. Au regard de la croix, il y a de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, il y a 2 pièges. 2 dangers à éviter. Le premier est celui-ci, c'est chercher à ajouter quelque chose au sacrifice de Jésus pour être pardonné. On vous dit, on croit au sacrifice de Jésus, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter quelque chose. Ses bonnes œuvres, ses prières, ses larmes, ses souffrances. Combien de religions, même chrétiennes, ajoutent quelque chose au sacrifice de Jésus? Et en ajoutant quelque chose au sacrifice de Jésus, alors nous détruisons son œuvre. C'est comme si on lui disait, Jésus, tu as souffert, mais ton œuvre n'est pas parfaite. Il faut en rajouter. Il faut compléter. Alors que le mot tetelestai, il veut dire, c'est fini, ce sera fini, et ce sera toujours fini. Et nous, nous lui disons, Seigneur, oui, je crois en ton sacrifice, mais quand même, il faut que je fasse des bonnes œuvres, que je sois gentil, que je fasse du bien aux pauvres, que je fasse ceci pour être pardonné, sinon tu ne pardonnes pas. Voyez-vous? C'est comme si on lui disait, Jésus, ton œuvre, finalement, à la croix, n'est pas achevée. Et ça, c'est la chose la plus terrible qui peut conduire quelqu'un à la damnation éternelle. Car le salut, personne ne peut le mériter, ni l'acheter, il coûte trop cher. Voilà pourquoi Dieu offre le salut gratuitement, parce qu'il est trop cher, et que personne ne pourra le payer, d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi Dieu l'offre gratuitement. Voilà pourquoi il te l'offre gratuitement, parce que tu ne pourras jamais payer, ni ta religion, ni tes larmes, ni tes prières, ni tes bonnes œuvres. Aujourd'hui, ce qu'on n'entend pas, dans nos pays christianisés, il faut faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Il faut souffrir, qu'il faut porter sa croix quand ça saigne un petit peu, comme Jésus. On pense qu'on fait quelque chose de bien, mais en réalité, on déshonore le sacrifice de Jésus. C'est comme si on lui disait en face, ton sacrifice n'est pas suffisant. Je dois encore, moi, souffrir. Je dois encore faire quelque chose. Alors que tetelestai veut dire, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien rajouter.
ceux qui rajoutent quelque chose sont retranchés de l'arbre de vie. Car le salut est un don et non pas un mérite ou un salaire quelconque. Voyez le premier danger ? C'est croire que Jésus est mort, mais on veut en ajouter encore quelque chose pour être sauvé. Les uns, c'est les bonnes œuvres. Les autres, c'est le sabbat. Bon, juste qu'il me vient une idée comme ça. Il y a beaucoup, le sabbat. On dit, oui, on croit au sacrifice et tout. Mais quand nous arrivons à la question du sabbat, eh oui, mais si tu ne fais pas le sabbat, si tu ne pratiques pas le sabbat, tu es perdu. Alors c'est quoi qui te sauve ? C'est le sabbat ou le sacrifice ? Voyez-vous la contradiction ? C'est Jésus qui te sauve ? Ah oui, mais il faut faire des bonnes œuvres aussi. Il faut faire des œuvres pour être sauvé. Alors c'est quoi qui sauve ? C'est le sacrifice ou tes œuvres ? Voyez-vous ? C'est là le piège. Et si nous ne discernons pas cela, nous risquons de le payer cher par une perdition éternelle loin de Dieu. Parce que Dieu n'accepte pas ce que tu fais pour lui. L'évangile, la religion dit « fais, fais, fais ». Mais elle ne dit jamais de t'arrêter de faire. Jamais. C'est toujours « fais, 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 fais ». Mais en général, dans le « fais, fais », il y a toujours un peu une question de sous, vous comprenez ? C'est une question d'intérêt qu'elle a. Plus tu fais, continue, continue. En attendant, ça rentre. Et on ne vous dit jamais, mais non, ça suffit, là, c'est fait. Vous avez entendu ça ? Jamais ! Ça suffit, là, c'est fait maintenant, ça suffit. Maintenant, ça va, c'est bon. Est-ce que c'est... Vous avez déjà entendu ça ? Jamais ! Et même encore après votre mort, il faut encore faire. C'est plus vous, c'est les autres, cette fois. Et quand les autres meurent, la famille encore, qui est là, doit encore faire quelque chose. Dites-moi, c'est cela l'évangile ? Ça, c'est la religion qui a amené à la perdition des multitudes de personnes. Amen. Le salut, Éphésiens 2, 8, qu'est-ce qu'il est dit ? Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le mot grâce veut dire une faveur imméritée, que l'on ne mérite pas et que l'on ne méritera jamais. Donc, il ne faut pas dire « j'espère qu'un... » Non ! La grâce veut dire cela. Dieu t'accorde le pardon parce que tu ne pourras pas le mériter et tu ne pourras jamais le mériter. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, personne. En général, les personnes qui essayent d'ajouter quelque chose au sacrifice de Jésus, ce sont des personnes orgueilleuses. Elles pensent qu'un jour en allant au ciel, vous savez ce qu'elles devraient chanter au ciel, ces personnes, si elles y vont, elles n'iront jamais. Mais voilà le spectacle. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez la foule qui loue et adore qui ? Il y a le trône, le Père et l'agneau. Et tout le monde adore le Père et l'agneau. Digne à l'agneau, digne à l'agneau. Si une personne va au ciel à cause de ses prières, de son sacrifice, de sa religion, vous savez ce qu'elle devra dire au ciel ? Gloire à moi, car c'est à cause de mes prières, de mes larmes, de ma gentillesse, que je suis ici, de mes souffrances, enfin n'importe quoi, de mon argent aussi. Vous croyez que ça sonne bien au ciel ? Est-ce que vous voyez ça au ciel ? Non. Au ciel, c'est tout à fait autre chose. Les deux pièges. Premier piège, ajouter quelque chose au sacrifice. Et le deuxième piège, concerne ceux qui ont accepté ce sacrifice. Les chrétiens, nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et qui savent que seul le sacrifice de Jésus pardonne leurs péchés. Le danger est où maintenant ? Croire que parce que nous sommes pardonnés maintenant, que nous pouvons faire ce que nous voulons. Parce que nous vivons sous la grâce, eh bien, Dieu pardonnera toujours nos péchés. Eh oui, et il y a bien des chrétiens qui en sont là. Si un chrétien a ce raisonnement-là, autant dire qu'il n'a rien compris. Car la grâce de Dieu, loin de justifier le péché dans nos vies, nous pousse à renoncer au péché. L'épître de Tite nous dit cela. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à tout cela. Pour vivre d'une manière qui glorifie Dieu, en attendant la bienheureuse espérance de la gloire de la manifestation du Fils de Dieu. Alléluia. Voyez-vous les deux pièges ? L'un ajoute quelque chose au sacrifice, il sera perdu. L'autre qui croit au sacrifice et qui pense que
il peut abuser de la bonté de Dieu et du pardon de Dieu en disant « Oh, ça c'est pas aussi grave que ça, le Seigneur me pardonnera, tel péché, un petit mensonge par-ci, un petit adultère par-là. » Et c'est rien, c'est des petits, c'est tout petit. C'est un petit adultère, c'est pas grand-chose. Oui, c'est un petit adultère, il va t'emmener où, tu vas voir un petit peu. Le chrétien qui a compris la croix et à quel prix il a été racheté ne joue plus avec le péché. Je termine maintenant. J'ai noté ici 5 fruits qui découlent de ce sacrifice, de ce grand sacrifice à la croix. 5 fruits. Je vous les donne rapidement. Quand on a compris le sacrifice de la croix, tétélestai, il a payé une fois pour toutes. Alors, il y a 5 choses qui se passent en moi, dans ma vie. Premièrement, j'ai la haine contre le péché dans ma vie. Le premier fruit, c'est la haine de notre péché. Amen. Puisqu'il est mort, c'est mon péché qui l'a crucifié. Puisque c'est mon péché qui l'a séparé de Dieu pendant un temps. Et dont il a souffert le tourment, j'allais dire l'enfer même, pour que nous n'allions pas en enfer. Comment pouvons-nous jouer avec le péché? Premier fruit d'une vraie conception de la croix et du sacrifice de Jésus, c'est la haine de mon péché. Je confesse et je l'abandonne. Je ne joue pas avec le péché. Deuxième fruit, la reconnaissance de nos cœurs. Nous sommes éternellement reconnaissants pour ce qu'il a fait. Amen. C'est pourquoi nous louons le Seigneur ici. Pourquoi vous croyez que c'est... Si certains pensent qu'on perd notre temps, alors il y a certainement quelque chose qui dans votre vie spirituelle n'est pas au point encore. Certainement. Quand on a compris combien Jésus a tant fait pour nous, ce n'est que chose normale de lui être reconnaissant. Amen. Et l'éternité, nous allons faire cela. La reconnaissance montre que vraiment nous avons compris à quel prix, de quel gouffre, de quel précipice, de quel enfer Jésus nous a délivrés. La reconnaissance. Un chrétien reconnaissant pour ce que Jésus a fait, c'est un chrétien qui ira loin dans sa vie spirituelle. Troisième fruit, c'est la consécration totale de nos vies. Si Jésus s'est donné pour moi, alors en retour, je n'ai qu'un désir, me donner entièrement pour lui. Amen. Amen. Jésus veut une relation d'amour, ce n'est pas Jésus tu m'aimes, et puis moi, je fais ce que je veux, ça ne marche pas. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors c'est la consécration totale de notre vie. Ça, c'est normal. C'est pas fait seulement pour les pasteurs ou pour les missionnaires. Un jour, une chrétienne au téléphone nous a dit, quand mon épouse parlait de consécration, que chaque chrétien devait se consacrer, mais la consécration, vous êtes au service de Dieu, ça c'est pour vous la consécration. Elle, c'était pas pour elle la consécration. Elle, Jésus était son sauveur, alléluia, merci Seigneur. Et puis, elle avait sa vie entre ses mains pour faire ce qu'elle voulait. Cela veut dire qu'on n'a pas compris grand-chose du sacrifice de la croix. S'il y a quelque chose qui nous motive pour nous donner, redonner au Seigneur continuellement, c'est bien le sacrifice de la croix. À celui qui nous a tout donné, comment ne pas nous donner entièrement à lui? Amen. Quatrième fruit, c'est l'adoration et l'amour de ce merveilleux Sauveur. L'esprit d'adoration et d'amour, ça révèle que nous avons compris combien Jésus nous aime et combien nous voulons l'aimer en retour aussi. Amen. L'adoration, c'est pourquoi le ciel... Est-ce que vous pouvez imaginer un ciel sans adoration? Mais l'esprit du ciel, c'est l'adoration, n'est-ce pas vrai? Mais sincère, profonde. Et vous le voyez, quand on le fait sincèrement, Dieu déjà... nous donne comme un avant-goût, c'est faible, c'est très faible, mais quand même, nous savons que nous goûtons à quelque chose de céleste. Si c'est si beau maintenant, dans sa limitation, que sera-ce là-haut?
Que sera-ce dans sa présence des transports d'allégresse, de joie, de bonheur, de félicité? Et cinquième fruit, c'est être prêt à le servir de tout son être. Quand Jésus a fait tout cela pour nous, nous n'avons qu'un désir, c'est de lui dire, Seigneur, maintenant me voici, prends ma vie. On ne sera pas tous prédicateurs ou missionnaires, non, ce n'est pas cela, mais nous pouvons tous être au service de Dieu, utiles entre ses mains, 24 heures sur 24. Et si vous êtes disponible, si vous dites, Seigneur, ma vie ne m'appartient pas, utilise-moi. Il commence toujours par les petites choses. Il y en a qui veulent commencer par les grandes. Ils ont une autre Bible, une autre version. Mais quand on veut faire quelque chose pour le Seigneur toujours commence par les petites choses. Et si nous sommes prêts à commencer par là, Dieu vous utilisera, qui que vous soyez. Rien n'est inutile. Faisons tout comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Comme pour le Seigneur. Si tu fais quelque chose, ne le fais pas pour... Quand lui est là, quand elle est là... Ah, t'as vu ce que je fais? Oui, j'espère que tu vas me récompenser. Non, ne faites pas ça. Pour être vu des hommes comme les pharisiens. Fais. Va dans ta chambre. Et là... Prie dans le secret, fais l'aumône dans le secret, fais ton service dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, il est dit, publiquement. Dans nos versions, il n'y a pas, la version seconde là, que j'ai, le mot public n'existe pas, mais dans le texte original, c'est « et votre Père céleste te le rendra publiquement ». Ça veut dire que ce que vous faites pour lui, dans le secret de votre cœur, ou dans le secret de votre vie privée, Dieu fera en sorte qu'un jour, ce sera connu autour de vous. Parce que vous avez rendu un bon témoignage. Et il veut que ce témoignage porte du fruit. Tu en seras encouragé, tu en seras fortifié. Que le Seigneur soit béni. L'œuvre parfaite de la croix. Reposons-nous en elle. C'est là que nous avons un parfait pardon. Une parfaite libération. Une parfaite réconciliation. Et un parfait amour. Suivons-le, aimons-le, servons-le de tout notre cœur, car lui seul en est digne. À l'agneau qui a été immolé, soit la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Fais que ces paroles pénètrent au plus profond de nous-mêmes. Et que, Seigneur, nous n'ayons pas de fausses pensées sur ton œuvre, pensant que nous pouvons ajouter quelque chose, ou pensant que nous pouvons abuser de ton sacrifice. Seigneur, garde-nous de tous ces excès, de tous ces pièges, de tous ces dangers qui détruiront notre vie spirituelle. Donne-nous de te faire confiance. Tu as dit tétélestai. C'est fait, c'est parfait. Ce n'est plus à refaire. C'est définitivement fait. Le Père l'a accepté. Désormais, si nous l'acceptons, nous, alors nous serons pardonnés. Merci Seigneur. Nous voulons rester sur le terrain de la croix, sur l'œuvre de la croix, le sacrifice de la croix, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.